Bonjour, vous êtes sur Radio B, la radio des bonnes ondes, 90.0, dans l'émission Musique au pluriel, animée par Bruno Point et Paul Turchet. Cette émission est aujourd'hui consacrée au compositeur russe Piotr Ilitch Tchaïkovski et sera plus spécialement consacrée à sa musique instrumentale, autrement dit à sa musique concertante, sa musique de chambre et sa musique symphonique. Et nous lui consacrerons une seconde émission qui traitera de ses opéras et de ses ballets. Tchaïkovski, issu d'une grande famille bourgeoise d'origine russe et cosaque, naît le 25 avril 1840. Et dès l'âge de 4 ans, il compose avec sa sœur une chanson intitulée « Notre mère à Saint-Pétersbourg ». Profondément attaché à sa gouvernante, Fanny, il demande la permission d'assister aux leçons de musique de sa fratrie. Il commence ainsi le piano à 5 ans et en 3 ans, en fait, sait lire la musique aussi bien que son professeur. C'est un enfant d'une extrême sensibilité, psychologiquement très fragile, qui sera d'ailleurs appelé par sa gouvernante « l'enfant de verre ». Et après 2 ans très difficiles en pensionnat, pour préparer l'entrée au Collège impérial de la jurisprudence dans lequel il entre en 1852, il se dirige progressivement vers une carrière musicale, nonobstant son diplôme de droit et sa courte carrière de fonctionnaire au ministre de la Justice. En 1861, il prend des cours de théorie musicale, entre au conservatoire de Saint-Pétersbourg, où il va étudier bien sûr toute la technique musicale, l'harmonie, le contrepoint, la fugue, la composition, l'instrumentation, sous la direction générale d'Anton Rubinstein, fondateur et directeur du conservatoire. Il va, au cours de sa vie, composer 159 œuvres musicales, et s'il compose une centaine d'œuvres pour le piano, dont la plus marquante est le cycle intitulé « Les saisons », il compose aussi pour le piano et le chant, mais c'est surtout dans le domaine symphonique et du concerto qu'il va déployer son inspiration et son talent. Son premier concerto pour piano, composé en 1874-75, qu'il va ensuite retoucher, va rester à la postérité. Nous l'avons tous entendu, et déjà dans une émission précédente, vous aviez écouté Horowitz, qui en avait laissé une interprétation historique. Écoutons un extrait du premier mouvement, le début. Thank you. Nous restons dans le premier mouvement de ce premier concerto et nous écoutons maintenant la partie centrale qui est une partie lente et mélodieuse. Terminé, et encore dans le premier mouvement, nous allons écouter la cadence et le final de ce mouvement.
Thank you. Paul a exprimé la sensibilité extrême du très jeune Tchaïkovski, sensibilité qu'il va conserver toute sa vie. Mais sensibilité ne veut pas dire mollesse. On vient d'entendre un mouvement parfaitement passionné, parfaitement épique, et on a là tout l'art et toute la dualité de Tchaïkovski. Certes, le sentiment, certes la sensibilité, mais aussi la passion et la fougue. Ce titre, je peux presque parler de titre, est dans les hit-parades de la musique classique. Le premier concerto de Tchaïkovski est parmi les œuvres les plus fameuses, et d'ailleurs, ainsi que Paul l'a rappelé, nous l'avions diffusé dans la version d'Horowitz dans l'émission qui lui était consacrée. Nous allons maintenant passer à un autre titre du hit-parade de la musique que Tchaïkovski a composé, un autre concerto, le concerto pour violon. Le concerto pour violon qu'il est assez facile de confondre avec celui de Mendelssohn que nous avons traité dans l'émission sur Mendelssohn. Et d'ailleurs, lorsqu'on veut les acquérir, il est difficile d'acheter sur un CD l'un sans l'autre. On a là les deux plus grands concertos, ou en tout cas les deux plus connus, les deux plus joués du répertoire. Écoutons le premier mouvement, l'introduction du concerto pour violon avec Yasha Heifetz, qui d'ailleurs avait joué celui de Mendelssohn dans notre émission. Donc Yasha Heifetz au violon dans l'introduction du concerto pour violon. Thank you. curieuse histoire que celle des grands compositeurs. Tel Beethoven, qui voyait ses symphonies lors d'une nouvelle édition corrigée par le directeur du conservatoire, qui ne trouvait pas qu'elle respecte l'harmonie telle que l'harmonie doit l'être. Eh bien, Tchaïkovski, lui, aura eu, et ce fut le cas pour le premier concerto pour piano et pour celui pour violon, aura eu la faveur du public, comme Beethoven l'avait en tant que pianiste, mais les critiques qui vraiment l'incendiaient chaque fois qu'il sortait une œuvre. D'ailleurs, c'est un petit peu aujourd'hui presque amusant à lire, parce qu'on se dit que ces critiques sont aujourd'hui, lorsqu'on les lit, parfaitement ridicules, et qu'on voit que la postérité a fait le tri et a oublié les critiques et a parfaitement retenu les grandes œuvres de Tchaïkovski, comme celle de Beethoven d'ailleurs. Et nombre de grands musiciens, de grands chefs d'orchestre aujourd'hui reconnaissent l'immense qualité du compositeur Tchaïkovski. Revenons sur l'histoire du concerto pour violon. Tchaïkovski sortait d'une période très difficile. Il avait mis l'erreur de vouloir se marier. Rappelons qu'il était homosexuel et qu'il a traîné son penchant toute sa vie comme un véritable boulet à une époque où, dans la Russie tsariste et plus largement d'ailleurs un peu partout, c'était parfaitement inopportun. Donc il avait commis l'erreur de se marier. Ce mariage fut évidemment un échec terrible qui s'est résolu en quelques semaines car il a bien compris son erreur, d'où une période de dépression. Et en 78, il écrit en 25 jours ce concerto, pris d'un élan lyrique important et en compagnie d'un ancien élève, Joseph Kotek, qui était un très bon violoniste, pas un virtuose, mais un bon violoniste. Et donc il finit par rédiger ce concerto, qui ne sera pas joué tout de suite, et lorsqu'il sera joué en 1881, comme je l'ai dit, aura un très grand succès, sauf auprès de la critique. Écoutons maintenant le deuxième mouvement de ce concerto, qui est souvent considéré comme une cantilène, c'est-à-dire très chantée, et vous allez côtoyer à nouveau la grande sensibilité, je dirais presque le sentimentalisme dans ce qu'il a plus noble de Tchaïkovski.
profondément bouleversé par la mort d'Anton Rubinstein, qui, vous le savez, l'avait accueilli au conservatoire de Saint-Pétersbourg, Tchaïkovski compose en sa mémoire, en 1881, un trio aux dimensions, on peut dire immenses, et vraiment gigantesques, dont l'exécution dure quelque chose comme une cinquantaine de minutes. Il s'agit d'une musique poignante, d'aucuns diront sentimentale. En tout cas, c'est une musique romantique qui laisse le sentiment s'exprimer. Juste un mot, effectivement, Bruno vous a expliqué quelles attaques avait subi Tchaïkovski comme compositeur. On le traitait d'occidentalisé, de kitsch, de s'abandonner à la facilité, d'être éloigné de ce qu'on appelait le groupe des cinq. Balakirev, Rimsky-Korsakov, César, Cui, Borodine et Moussorski. Et l'écrivain polonais Gombrowicz écrit « L'échec artistique de Tchaïkovski prouve qu'en art, on ne peut ni faire demi-tour, ni descendre. La marche arrière et la dégringolade sont interdites. Son œuvre dégage une odeur insupportable, mélange d'insignifiance et de quelque chose de dépassé, de mort, d'enseveli, puis de regonflé artificiellement. » Tchaïkovski, qui est un maître de l'harmonie, se voit ainsi reprocher d'être en quelque sorte artistiquement réactionnaire, comme le seront d'ailleurs plus tard Prokofiev et Chostakovitch, par le régime soviétique, et on lui reproche de revenir en arrière, de s'abandonner à la facilité. Bruno l'a dit, l'histoire a fait justice, la postérité et l'histoire ont fait justice de cette marche arrière que pour notre part nous sommes très heureux d'emprunter. Écoutons la fin du trio, donc le dernier mouvement du trio, qui comprend une reprise du thème initial, lorsque le trio commence dans son premier mouvement. Ce thème initial est porté, on peut dire, à incandescence, par le jeu à l'unisson du violon et du violoncelle, qui sont portés également par le piano. Ce dernier mouvement qui se termine après une fugue aux dimensions également tout à fait importante et imposante.
Thank you.
ce trio s'achève sur un décrescendo de moins en moins fort. Nous allons maintenant écouter la cinquième symphonie qui, elle, va démarrer très pianissimo, avec un son de corde à peine audible et qui va grandir. On a reproché à Tchaïkovski d'être sentimentaliste et d'être aussi pessimiste. Pessimiste, je ne crois pas, il était sûrement tourmenté. Mais les siècles qui ont suivi ont montré que ces symphonies sont parmi les plus jouées et les plus appréciées. Je ne pense pas que tous les spectateurs et les auditeurs cherchent profondément du pessimisme dans les œuvres. On a surtout des œuvres très puissantes, avec des mélodies magnifiques, parce que Tchaïkovski avait un sens de la mélodie, et avec beaucoup de lyrisme et beaucoup de construction. Il est certes sentimental, et nous aurons l'occasion de l'écouter dans la sixième symphonie qui va clôturer l'émission, mais au préalable, nous allons écouter la cinquième. La cinquième, quand nous préparons des émissions avec Paul, je pense que nous avons un privilège, c'est que, quelque part, on est un petit peu libre de choisir ce que l'on aime. Alors, on essaye de rester, d'être objectif et surtout exhaustif, ne pas se polariser uniquement sur ce qu'on aime. Mais dans le cas des grands compositeurs ou des grands musiciens, c'est assez facile parce que finalement, beaucoup de choses sont très belles. Donc on peut choisir les choses belles qu'on aime. Ça va être le cas avec cette cinquième symphonie où on va écouter un début, donc je le disais, très, très doux, pianissimi, et avec un solo de corps qui est très caractéristique des symphonies russes. C'est probablement un des thèmes les plus longs. On va retrouver ça dans Les Descendants de Tchaïkovski, chez Taneïev, qui a été un très bon compositeur et surtout un grand professeur, professeur de Rachmaninov. On retrouvera ça chez Rachmaninov dans sa deuxième symphonie, son troisième concerto. C'est-à-dire vraiment un sens de la mélodie et de la mélodie longue. Écoutons l'introduction de cette symphonie, avec notamment cette mélodie au corps. Lorsque nous aimons une musique, lorsque nous aimons toute chose d'ailleurs, nous disons c'est très beau. En préparant cette émission ce week-end, j'avais des petits-enfants autour de moi, et lorsqu'ils aiment, ils disent c'est trop. On dit plus c'est très, on dit c'est trop. Alors on peut sourire, mais lorsque je les écoutais et que je pensais à Tchaïkovski, eh bien Tchaïkovski justement c'est trop. Et cette nouvelle interprétation du mot trop, cette nouvelle vocation, elle s'applique parfaitement à Tchaïkovski. Tchaïkovski et notamment à cette symphonie. Il est trop sentimental, mais il sait faire. Donc ça n'est jamais vulgaire, ça n'est jamais complaisant. Il exprime des sentiments d'une manière trop. Et cette symphonie, elle est cyclique, comme d'ailleurs d'autres œuvres, le trio, le concerto pour violon. Cyclique, ça veut dire qu'une mélodie, on la retrouve tout au long de l'œuvre, parce que Tchaïkovski, il est obsessionnel. Lorsqu'il a une mélodie à exprimer, il va l'exprimer, la réexprimer, la torturer, la mélanger, la développer. Il est trop. Il est trop. Et là, vous allez écouter le trop dans le l'andante cantabile, c'est-à-dire le même mouvement que nous venons d'entendre, mais dans le développement de cette mélodie avec des variations qui sont toutes différentes, avec des instruments différents. Il casse même le rythme, il augmente la vitesse, il change tout, il change l'instrumentation et il développe cette mélodie à merveille. Écoutons-la.
En février 1893, Tchaïkovski écrit à son neveu pour lui annoncer la composition d'une symphonie dite, c'est lui qui le dit, à programme. Il acceptera d'ailleurs le titre qu'on lui propose de symphonie pathétique. Il l'évoque comme profondément empreinte de sentiments subjectifs. C'est un programme qui doit rester une énigme pour tous, sauf pour moi, ajoute-t-il. Il parle de la certitude d'une destinée sans espoir pour l'homme, la représentation de la mort. Et il la décrit comme une force fatale qui empêche l'accomplissement de l'élan vers le bonheur et qui empoisonne constamment notre âme. Cette force est invincible et personne ne peut la maîtriser. Il ne reste qu'à se résigner à une tristesse sans issue. On peut parler d'une œuvre testamentaire car Tchaïkovski, en fait, va mourir un mois et deux jours après la présentation de cette œuvre qu'il dirige lui-même. Et cette fameuse énigme, sauf pour lui, on la comprend mieux, en tout cas on l'élucide, lorsque l'on sait, une fois que les archives de l'ex-URSS vont être ouvertes, que très probablement Tchaïkovski n'est pas mort du choléra, comme l'histoire officielle le dit, mais il aurait été poussé au suicide à l'issue d'une sorte de conseil de famille qui l'aurait contraint à se suicider compte tenu du scandale sur le point d'éclater en raison de la liaison qu'avait eue Tchaïkovski avec un jeune officier de 17 ans qui était près de la famille impériale. Et la symphonie pathétique donc évoque la mort de manière évidente, qui est également présent parfois dans son œuvre, mais pas toujours. Nous allons écouter le dernier mouvement, puisque Tchaïkovski annonce à son neveu que le dernier mouvement ne sera pas un allegro tonitruant et rapide, comme cela est l'usage dans les règles qui s'appliquent à l'époque, les règles de composition, mais c'est un mouvement lent, c'est un adagio. Adagio, lamentozzo, on ne peut pas dire mieux. Et là, on peut dire oui, c'est trop, mais c'est trop bien, parce qu'on entend vraiment pleurer l'orchestre, on entend pleurer les cordes, notamment les violons. On n'a pas pu se résoudre à couper ce mouvement, donc nous l'écoutons en entier. Thank you.
Lors de l'émission sur Schumann, je me souviens vous avoir conseillé d'aller sur YouTube regarder Martha Argerich dans le concerto de Schumann, la toute jeune Martha Argerich. Eh bien, je vous conseille d'aller écouter les trois premiers extraits de notre liste sur le concerto, le premier concerto dans son premier mouvement. La toute jeune Martha Argerich avec l'orchestre de la Suisse romande et Charles Dutoit. C'est juste un moment éblouissant. Ensuite, nous avons écouté deux extraits du concerto pour violon, premier mouvement et deuxième mouvement, par Yasha Effetz et John Barbirolli à la tête du London Symphony Orchestra. Puis, toujours Martha Argerich, qui décidément est notre idole, en trio avec Gidon Kremer et Misha Maïski, dans le trio de Tchaïkovski, le final. Puis Emmanuel Krivine à la tête de l'Orchestre National de France dans deux extraits de la 5e symphonie et son Dandante Cantabile à variation. Puis nous avons conclu avec Claudio Abbado et l'Orchestre Symphonique Simon Bolivar dans le pathétique Adagio Lamentoso de la 6e symphonie dite pathétique. À bientôt pour une prochaine émission sur Tchaïkovski que nous consacrerons donc à ses opéras et ses musiques de ballet. Bonne semaine.
Bonsoir.